On y va. Colossiens chapitre 3, versets 1 à 5. Du moment que vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez ce qui est en haut, là où se trouve le Christ, assis à la droite de Dieu. C'est en haut qu'est votre but, non sur la terre. Vous êtes mort en effet, et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Quand le Christ, votre vie, paraîtra, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui en pleine gloire. Faites donc mourir ce qui en vous appartient à la terre, débauche, impureté, passion, désir mauvais et cette cupidité qui est une idolâtrie. Amen. Viens nous parler, Seigneur, à travers ces paroles de l'apôtre Paul, viens renouveler notre foi. Amen. Alors, voilà le texte. Voilà, vous l'avez tous lu. Voilà, alors nous avons parlé de la mort ce matin. Eh bien, regardez ça. Décidément, quand j'étais pasteur en Suisse, donc il y a maintenant 10 ans que ça s'est terminé, je célébrais pas mal de services funèbres. Je peux même dire beaucoup. Et pour bien des gens, en fait, à ce moment-là, les enterrements étaient les seuls moments où ils voyaient le pasteur. Je faisais à leurs yeux, en quelque sorte, partie du personnel des pompes funèbres. Alors, il me fallait corriger ce regard. Alors, je m'empressais de préciser que le pasteur n'est pas un professionnel de la mort, mais de la résurrection. C'était ça, mon travail. Et je suis heureux ce matin, frères et sœurs, d'être avec vous, ça s'est improvisé presque en dernière minute, mais c'est formidable de vous retrouver pour parler de cette résurrection. La dernière fois que j'étais avec vous, j'ai parlé de l'ascension, voyez, on reste dans ces thèmes, mais vous allez voir que c'est pas sans lien. Parce que la résurrection, comme nous l'avons déjà dit dans notre entretien tout à l'heure, ne s'annonce pas qu'aux enterrements, heureusement, ni même seulement en relation avec la mort, car en Christ, la mort est vaincue. En Christ, dès maintenant, frères et sœurs, dès maintenant, nous avons la vie éternelle. Vous êtes ressuscités avec le Christ. Frères et sœurs, nous ne sommes plus dans la situation de Marthe, Marthe dans l'évangile de Jean, qui, confrontée à la mort de son frère Lazare, pouvait dire à Jésus avec la grande foi qui était la sienne, « Oui, je sais que mon frère ressuscitera lors de la résurrection au dernier jour. » Vous connaissez ce passage dans l'évangile de Jean au chapitre 11. Alors, quelle fut la réponse de Jésus à Marthe ? Je suis la résurrection et la vie. Dès maintenant, je suis la résurrection et la vie. En fait, Marthe se trouvait déjà à ce moment-là en présence du victorieux qui allait manifester sa victoire en ressuscitant son frère quelques instants après, mais elle pouvait ainsi se rendre compte qu'elle était en face du prince de la vie. La résurrection n'est pas seulement une affaire pour le dernier jour. Elle est là, aujourd'hui, en Jésus. Jésus présent au milieu de nous. Jésus au cœur de nos vies. Elle est offerte maintenant. Dieu n'attend pas pour nous sauver. Il nous veut avec lui. Mais il nous veut avec lui dès maintenant, dès aujourd'hui. Et c'est ce que l'apôtre Paul a compris. Après Marthe, mais cette fois-ci dans la lumière de Pâques, Paul a rencontré le ressuscité. Et en le rencontrant sur le chemin de Damas, il a expérimenté une nouvelle naissance, une transformation complète de son existence, quelque chose que beaucoup d'entre vous ont connu aussi. Et il faut s'en souvenir quand on lit les lettres de Paul. De persécuteur des chrétiens, il est devenu disciple du Christ. Il est devenu apôtre de Jésus. Il est tombé à terre. Il a sombré dans les ténèbres, hein, nous disent les Actes des apôtres. Il ne pouvait plus manger ni boire. Et puis, il a vécu déjà une sorte de résurrection, en contemplant la lumière du ressuscité, en entendant sa voix, puis en se relevant. Et dans le Nouveau Testament, le mot qui veut dire se relever ou se lever est le même que celui qui veut dire ressuscité. Il s'est relevé, il a retrouvé la vue, il a repris des forces en entendant l'Évangile et en s'ouvrant à la foi au Christ, en recevant le baptême, il a commencé une vie nouvelle. Tiens, une vie nouvelle, décidément on en parle de la vie nouvelle aujourd'hui. Ça, c'est pas fini. Depuis le jour de sa conversion, Paul sait qu'il est sauvé. Il sait qu'il est sauvé. Ça ne fait aucun doute pour lui. Il sait qu'il est entré déjà dans la résurrection et que la mort, cette mort dont nous parlions tout à l'heure, la mort sur lui n'aura plus aucun pouvoir. Alors, il consacrera désormais toute sa vie à le proclamer. Dieu nous a donné la vie avec le Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés, dit-il donc en... Tiens. En Éphésiens 2:6. Avec lui, il nous a ressuscités et fait asseoir dans les cieux en Jésus-Christ. Vous constatez dans cette citation que Paul parle de la résurrection comme d'un événement passé. Donc plutôt tendance d'en parler au futur. Paul en parle comme d'un événement passé. Il nous a donné la vie. Vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités et fait asseoir dans les cieux. Et il écrit de même, Paul, à ses amis de Colosse, hein, dans le texte que nous avons lu tout à l'heure, « Vous êtes ressuscités avec le Christ. » Vous êtes ressuscités avec le Christ. C'est ce qu'on appelle une espérance. Mais une espérance au sens du Nouveau Testament. C'est-à-dire une assurance absolument certaine. Et pourquoi absolument certaine? Parce qu'elle est fondée en Dieu. Les promesses de Dieu sont absolument certaines. Par la foi et le baptême, bon, laisse tomber, hein, ça fait rien si ça va pas. Par le don du Saint-Esprit, par la rencontre de Jésus, frères et sœurs, vous êtes déjà dans la vie éternelle. Jean dit, qui a le Fils a la vie. Il l'a maintenant. Voilà, ce sera finalement plus simple comme ça. Qui a le Fils a la vie. C'est extraordinaire. La vie ici-bas change donc complètement. Paul invite les Colossiens dans ce passage à modifier leur regard sur le monde, fort de cette promesse. Et il leur dit, recherchez ce qui est en haut. Recherchez ce qui est en haut. Alors j'ai envie de vous demander, mais c'est quoi ce qui est en haut? Regardez le plafond. En début de semaine, avec tous nos enfants, nous étions dans un gîte à 1000 mètres d'altitude et on regardait les étoiles. On regardait ce qui était en haut. D'ailleurs, j'avais mal au cou au bout d'un moment. Ça donne un peu le torticolis, puis on titube après. Alors, est-ce que c'est ça, regarder en haut? Faut-il regarder le ciel comme les apôtres le jour de l'ascension de Jésus? Tiens, revoilà l'ascension. Faut-il scruter les étoiles? À fixer toujours le ciel, je vous le dis, hein, nous allons finir par avoir un torticolis ou par tomber. les chrétiens, frères et sœurs, n'ont jamais reçu la vocation d'être dans la lune. Paul s'empresse donc d'expliquer ce que c'est en haut. Il le dit, c'est là où se trouve le Christ. C'est là où se trouve le Christ. Frères et sœurs, que Jésus, comme nous l'avons dit le jeudi de l'Ascension, que Jésus soit à la droite de Dieu ne signifie pas qu'il serait loin de nous. Difficile à comprendre. C'est justement parce que Jésus est en Dieu qu'il est avec nous. En Jésus, Dieu s'est fait chair. Le Seigneur a voulu se rapprocher de nous, être avec nous, et il s'est fait serviteur, et il l'a fait, et c'est Dieu qui l'a fait en son Fils pour demeurer toujours avec nous. Donc, rechercher ce qui est en haut, ce serait en fait vivre avec Christ une existence en fait bien remplie sur cette terre. Une existence pleine, comme celle de Jésus, de foi, d'amour et de service. Alors Paul est bien obligé de préciser sa pensée à ses amis de Colosse, qui se laissaient tenter, on le voit en lisant cette épître, par l'ésotérisme ou par des spéculations hasardeuses sur des puissances cosmiques. Voyez, pas d'aujourd'hui. Et il leur dit que personne ne vous abuse par de faux discours. Le New Age commençait déjà, oh, il avait commencé même depuis longtemps, et il continue aujourd'hui. Je vois fleurir autour de chez nous, en Saône-et-Loire, des tas de maisons avec des pancartes sur le magnétisme, sur je ne sais quelle gymnastique cérébrale pour atteindre les plus hauts sommets de la spiritualité. Déjà à Colosse, au 1er siècle. Et c'est à des gens comme cela, ou plutôt à des gens tentés par cela, comme peuvent l'être nos contemporains, que Paul adresse cette épître aux Colossiens. Paul leur précise donc cette vérité fondamentale qui est toute sa joie. Votre vie, frères et sœurs, est cachée avec le Christ, en Dieu. Votre vie est cachée avec le Christ, en Dieu. Ben oui, bien sûr, nous l'avons dit tout à l'heure pendant le partage, un pan de la vérité sur notre vie nous demeure caché. Il y a encore bien des mystères. Nous vivons dans une attente, l'attente de la pleine manifestation du Seigneur dans sa gloire divine. Un jour, rappelle Paul, oui, un jour, le Christ, votre vie, paraîtra. Mais justement, ce jour-là, nous pourrons le reconnaître parce qu'il aura déjà été notre vie. Notre vie. Nous nous demandons parfois, j'ai déjà entendu des gens qui m'ont parlé, nous nous demandons parfois si nous serons capables de reconnaître Jésus lors de son retour. Bon, ça sera le retour de Jésus. Je me souviens que mes grandes sœurs chantaient, quand j'étais enfant, c'est-à-dire dans les années 70, un cantique qui était de John Littleton et qui disait « Si le bon Dieu venait revivre sa peine, il aurait les yeux d'un enfant noir de Harlem, ou il aurait les yeux d'un orphelin du Vietnam, et les années 70. On dirait aujourd'hui, est-ce qu'il aurait les yeux d'un enfant de Gaza, d'un vieillard d'Ukraine, d'une femme du Congo? Peut-être, mais est-ce vraiment de cette manière qu'il faut envisager les choses ? Frères et sœurs, aurions-nous reconnu le Messie, le Fils de Dieu, dans le charpentier de Nazareth et le crucifié de Golgotha, si nous avions fait partie de la foule de Jérusalem en l'an 30. Rien n'est moins sûr. Or, pour ce qui est de son retour aussi, il faut bien reconnaître que les indications bibliques ne sont pas, et elles ne le sont pas volontairement, d'une grande précision. Le reconnaîtrons-nous ? Alors plutôt que d'échafauder des hypothèses hasardeuses, eh bien faisons sa connaissance dès maintenant. Tournons-nous vers lui, vivons avec lui, demeurons en lui, comme il nous le dit. Et quand il reviendra, nous retrouverons celui avec lequel nous aurons toujours vécu, comme un vieil ami, comme notre plus proche prochain. La reconnaissance. Vous savez, il existe une connaissance plus forte que la vie, que la vue, plus forte que la vue, plus certaine que l'intelligence. C'est la connaissance de la foi. On connaît, peut-être vous avez déjà entendu, la réponse du renard au petit prince dans le conte d'Antoine de Saint-Exupéry. On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Vous avez déjà entendu ça, je pense. Elle est souvent citée dans les prédications et les discours chrétiens. Mais elle pourrait laisser penser qu'un organe particulier en nous, le cœur, nous donnerait en quelque sorte un sixième sens qui nous rendrait capable de connaître un certain nombre de choses, et notamment le Seigneur. Or, la Bible ne parle jamais d'un sixième sens. Le cœur, c'est moi, c'est mon être, dans ce qu'il a de plus profond. Non pas ce que je ressens, mais ce qui, en moi, donne l'orientation la plus fondamentale à mon existence. C'est ce qui oriente ma vie. Dans la foi, le cœur, c'est cet élan qui m'habite, mais qui m'habite moi, avec tout ce que je suis, pour me tourner vers Dieu et vers mon prochain. Et vous savez bien que dans le Nouveau Testament, l'amour n'est pas qu'un sentiment, c'est quelque chose qui nous saisit tout entier. Et c'est pour ça que c'est si difficile. Si on aimait seulement quand ça nous fait plaisir, ça serait facile. Comme dit Jésus, si vous aimez ce que vous aimez, ce qui vous aime, les païens en font autant. Mais dans le Nouveau Testament, l'amour, c'est un commandement, un travail. Ce que je vous commande, dit Jésus, c'est de vous aimer les uns les autres. Dans notre société, où l'amour a la réputation d'être facile et où l'amour désigne n'importe quoi, bien souvent, cela nous étonne. L'amour, un commandement, peut-on m'obliger à aimer? Eh bien oui, parce que nous savons, nous sommes bien placés pour savoir combien il est difficile d'aimer vraiment. Et nous vivons tous des échecs, des difficultés dans ce domaine. Il est difficile, très difficile, d'aimer vraiment et encore plus difficile de donner sa vie. L'amour est un commandement parce qu'il lutte contre notre égoïsme et notre orgueil qui sont bien réels. Mais en Jésus, frères et sœurs, dans la perspective de tout le Nouveau Testament, il devient même possible d'aimer ses ennemis. Waouh ! C'est possible comme Jésus. Parce que c'est possible avec Jésus. C'est possible en Jésus, dit très souvent l'apôtre Paul. Votre vie est cachée avec le Christ, en Dieu, dit Paul. Nous sommes déjà avec lui, même si cela ne se voit pas. L'Esprit Saint est la présence de Jésus dans notre vie, celle qui nous ouvre aujourd'hui à la foi, celle qui, un jour, nous permettra de le reconnaître dans sa gloire. C'est lui qui nous donnera cette possibilité de le reconnaître. L'Esprit Saint, il est, comme le dit l'apôtre Paul, Christ qui vit en moi. Parlons donc de cette vie nouvelle dont vous portez le nom ici au Creusot, beau nom comme une église, pour une église. Alors, encore une fois, comprenons le bien. Par son esprit, Jésus n'est pas caché quelque part dans notre corps, dans notre cerveau ou notre système nerveux. C'est-à-dire quand j'étais tout petit, quand j'avais le ventre qui gargouillait, je disais « Oh, c'est le petit Jésus qui me parle !» On m'a tellement dit que Jésus était en moi, m'habitait, bon, c'était ma manière d'enfant de comprendre des choses. Ben, c'est pas tout à fait exact. Jésus n'est pas là, quelque part, dans un organe de notre corps. Une opération chirurgicale en service de cardiologie ne permettra pas de le découvrir dans nos ventricules. De même que quand Gagarine, le premier astronaute, est parti dans l'espace, envoyé par un pays athée et communiste, il a pu revenir triomphateur en disant « Je n'ai pas vu Dieu ». C'est pas là que Dieu se cache. En fait, Jésus réclame toute notre existence pour qu'elle devienne la sienne aujourd'hui. Toute notre existence. Pour nous, suivre Jésus, ce n'est pas forcément porter une barbe, bien que ça puisse aider, aussi. Porter une barbe ou des cheveux longs, avoir des sandales et parler araméen. Il s'agit d'écouter sa parole et de la mettre en pratique. Tels sont les enfants de Dieu. Jésus le dit, « Quiconque fait la volonté de mon Père qui est aux cieux, c'est lui mon frère, ma sœur, ma mère. » Et c'est pourquoi nous avons pu dire ce matin que cette Église était une famille. Abdel nous l'a rappelé. Les Colossiens, tentés par des spéculations un peu savantes et fumeuses, avaient besoin que Paul, en fait, leur remette les pieds sur terre. Le discours de Paul n'est donc pas celui d'un illuminé un peu dans les nuages. Pour Paul, la mort du vieil homme, la vie nouvelle en Christ, n'est pas un phénomène mystique. Quand il dit « Faites donc mourir ce qui en vous appartient à la terre », il ne demande pas de se couper du monde, mais il demande de vivre une existence nouvelle, transformée par les paroles de Jésus, une existence rendue possible par son esprit et qui fera des chrétiens le sel de la terre et la lumière du monde. Et combien notre monde en a besoin. Alors certains seront peut-être déçus par les exhortations de Paul. Finalement, les paroles de l'apôtre n'ont rien d'enthousiasmant. Elles n'appellent même pas à changer la société. Les mots de Paul n'ont rien d'attirant pour notre société qui a tout oublié de leur force libératrice. Je vous rappelle ces paroles qui ont terminé le passage que je vous ai lu tout à l'heure. Faites mourir ce qui en vous appartient à la terre. Débauche, impureté, passion, désir mauvais et cette cupidité qui est une idolâtrie. Franchement, ça ne va pas dans le sens de notre monde. Cette mort à l'infidélité, à l'impureté sexuelle et à l'amour de l'argent représente pourtant vraiment une libération qui rendra le reste possible. Le sexe et le profit n'ont jamais rendu l'être humain plus libre et plus heureux. Bien au contraire. Il suffit de voir le désespoir qui règne dans notre société et qui fait le nid de la violence. Je disais dernièrement dans une prédication à Lons-le-Saunier que les pays les plus riches sont malheureusement ceux qui connaissent les taux de suicide les plus importants, les taux de désespoir les plus importants. Alors Paul appelle à nous libérer de cela. Il appelle à un travail sur nous-mêmes, avec l'aide du Seigneur, pour détacher notre regard, nos désirs, pour délivrer notre corps et nos pensées de ce qui les rend esclaves dans ce monde et de ce qui les empêche en fait de se tourner vers Jésus. Il faut purifier notre cœur pour laisser au Seigneur toute la place et pour nous mettre debout, pour nous réveiller avec le Christ, pour vivre cette liberté de Dieu qui vient effectivement d'en haut. Ne soyons pas comme ces montgolfières, on en voit un petit peu pendant l'été, ces montgolfières qui ont une apparence de liberté dans les airs, mais qui restent soit attachées au sol par un câble, ou bien alors qui voguent au gré des vents pour aller se perdre au loin, un peu n'importe où. Soyons libres comme des avions capables de choisir la bonne direction parce que leur pilote n'est autre que l'Esprit du Seigneur, l'Esprit du Seigneur. Et pour trouver en nous le Christ caché, comme dit Paul, la vie selon l'Esprit, il faut se débarrasser de ce qui nous attache à la terre, de ce qui nous retient loin du Seigneur et qui nous empêche d'avancer. Les chrétiens des premiers siècles, ce qu'on appelait les pères du désert, vous n'avez pas lu grand-chose sur eux, c'est parfois assez truculent comme littérature, qui étaient les premiers moines chrétiens qui allaient se perdre dans les déserts d'Égypte autour de la Terre Sainte. Ils appelaient ce qui nous retient ainsi loin du Seigneur, ils appelaient cela les passions. Les passions. Le terme a pris un autre sens aujourd'hui. Et ils ont même élaboré une riche, écoutez le mot, une thérapeutique spirituelle pour lutter contre les passions. Alors, ça n'a rien à voir avec les gens qui s'improvisent thérapeutes aujourd'hui. La thérapeutique spirituelle, c'est rechercher toujours plus l'union au Christ pour être libéré de ce qui nous retient loin de lui. J'ai un copain pasteur qui a écrit tout un énorme bouquin sur le sujet. Enfin, un peu fastidieux, je vous le reconnais. Le mot est utilisé ici par Paul, le mot passion. La passion, c'est ce qui affecte l'âme et la détourne de Dieu. Ce qui oriente notre désir vers l'idolâtrie des sens ou des biens. Et voyez que notre société n'est pas forcément pire que celles qui l'ont précédée. Elle a surtout plus de moyens techniques. On constate que les Grecs de Colosse étaient confrontés aux mêmes problèmes que les Occidentaux du XXIe siècle. Il est donc facile de donner une actualité à ce verset. L'homme reste esclave des mêmes passions. Et son chemin de libération reste le même, suivre Jésus, le Christ. Un amour vrai pour Dieu et le prochain ne pourra jaillir que d'un cœur pur. Heureux les cœurs purs, dit le Seigneur, ils verront Dieu. Vous êtes, frères et sœurs, ressuscités avec le Christ. Paul nous dit que nous sommes invités à vivre, dès aujourd'hui, dans la lumière de la résurrection. Jésus nous libère de nos ténèbres. Il nous libère par sa parole et par son esprit pour connaître avec lui la joie d'aimer. La joie d'aimer dans la pureté, la joie de croire en s'abandonnant dans la confiance et de vivre avec l'assurance de l'espérance. Paul annonce un chemin de lumière. Vous êtes élus, sanctifiés, aimés par Dieu, aujourd'hui même. Amen. Là, nous pouvons prier. Seigneur, nous voyons combien notre monde, les pays dont nous sommes issus, les sociétés dans lesquelles nous avons vécu ou nous vivons aujourd'hui, ont besoin d'être purifiés, d'être libérés. Mais nous voyons aussi combien notre vie personnelle aussi a besoin que tu la travailles, que tu l'habites, que tu la visites toujours davantage de jour en jour, pour nous rapprocher de toi et pour nous éloigner de tout ce qui nous retient loin de toi, de tout ce qui nous retient à la terre et nous empêche de vivre déjà dans ta résurrection. Seigneur, ce matin, tu nous rappelles que nous sommes ressuscités avec le Christ, que notre vie est cachée avec le Christ que quelque chose, quelqu'un nous habite de plus fort que les forces du mal et que les forces du mal et de la mort qui règnent dans notre monde. Seigneur, alors que ce qui a été vécu par plusieurs d'entre nous, et alors que l'actualité pourrait nous conduire, Seigneur, à désespérer et à douter peut-être même de ta puissance, Seigneur, viens réveiller en nous la foi, l'amour pour toi, le désir de te suivre sereinement, dans la paix que toi seul peux donner, parce que nous savons qu'en Christ, tu t'es montré déjà vainqueur du péché, de la violence, du mal et de la mort, et que nous pouvons déjà vivre maintenant dans ta lumière. Viens, Seigneur, nous donner ton esprit, remplir notre vie de ta présence en Jésus. Amen.
Amen.